Civil War, le film choc d'Alex Garland, Borgo avec Asia Erzi, Monkey Man 2 et avec Dev Patel et Rosalie avec en invité sa réalisatrice Stéphanie Di Giusto. Séance tenante saison 3, épisode 16. C'est parti! Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés. Je suis en compagnie de Robin, bonjour.
Bonjour Alexis.
Et de Lisa, bonjour.
Salut.
Nous avons perdu Gaël. On ne sait pas où il est d'ailleurs. Si vous jamais vous le retrouvez, n'hésitez pas à nous donner un petit message. Ça faisait longtemps qu'on avait réussi à être tous les quatre.
Et oui,
puis là, ça y est, on a raté un épisode. Écoutez, ce n'est que partie remise. Il sera là, espérons-le, la semaine prochaine. On touche
du bois.
Ouais, c'était un jeu, bravo, vous avez égalité parfaite, vous n'avez donc rien gagné. Cette semaine, je le disais en intro, on va donc parler de Civil War, le nouveau film signé par Alex Garland, de Borgo, notre label L'Autre Regard, et de Monkey Man, le film d'action porté et réalisé par Dev Patel. Et dans une seconde partie de l'épisode, on recevra la réalisatrice de Rosalie, Stéphanie Di Giusto, qui est pour un film qui est toujours à l'affiche, qui est sorti la semaine dernière au cinéma, et qui est toujours au cinéma chez Pathé. Mais juste pour commencer, peut-être faire un débrief de l'épisode de la semaine dernière, cet épisode en public, nous les Leroy, le premier épisode qu'on a fait en public à Paris, en compagnie de Florent Bernard. Comment ça s'est passé de votre côté, cet épode?
Ah bah, très bien.
Ça s'est bien passé, je pense.
Ouais. Ouais, bon retour d'expérience.
Mais oui. Non, mais c'est très agréable d'avoir justement un public qui réagit et qui, derrière, participe aussi aux questions et à la rencontre là avec Florent Bernard. Donc, super.
Oui, et puis d'avoir le temps, en fait, aussi de la rencontre en elle-même, qui est en plus, je trouve, Florent Bernard, qui est un gros cinéphile. Donc en plus, quand tu animes un podcast cinéma, oui, c'est toujours hyper agréable.
Avec un cinéma très référencé.
Exactement, c'est hyper intéressant. Je pense pour nous, comme pour le public d'ailleurs, d'avoir un mec aussi passionné et aussi cultivé, en fait. Mm-hmm. Et même, je trouve que les interventions du public ont été mais vraiment passionnantes. Je pense, je trouve qu'il y avait vraiment des questions qui étaient pertinentes.
Carrément.
Alors qu'il venait de visionner le film 10 minutes avant.
Oui, c'est
donc,
ça. Nous, on avait eu le temps peut-être de le digérer un petit peu en plusieurs mois, parce qu'on l'avait vu... On l'a vu à l'Alpe d'Huez pendant le festival, mais c'est vrai que là, le public venait de voir le film, et d'un seul coup, on est arrivé pour enregistrer le podcast. Mais ouais, c'était super. Florent Bernard, c'était un comme on le disait la dernière fois, c'est un invité, c'est la troisième fois qu'on le recevait. C'est un super invité qui est très passionné, passionnant sur son travail. Donc c'était super. Et puis le fait d'avoir en effet les questions de public
totalement.
Je trouve que ça ajoute vraiment un super truc à l'expérience. Donc on espère que l'épisode vous a plu. Si vous y étiez dans la salle, que la séance vous a plu. Bref, en tout cas, on a hâte d'en refaire. L'idée, c'est qu'on en refasse plusieurs dans l'année. On va essayer d'en refaire un avant l'été avec un film, espérons-le, tout aussi sympathique nous l'est le roi. Dans l'actu cette semaine, on en parlait, c'est Civil War, on en parle donc tout de suite. Un film à découvrir en IMAX chez Pathé, c'est notre label coup de cœur. Un film réalisé par Alex Garland avec Kirsten Dunst, Wagner Moura et Kylie Spenny.
Citoyens d'Amérique, ceux de l'Alliance de Floride et des forces de l'Ouest du Texas et de Californie doivent être informés qu'elles pourront réintégrer les États-Unis à la seconde où leur gouvernement sécessionniste illégal sera renversé.
Vous ne savez même pas de quel bord ils sont.
Il y a des mecs qui essaient de nous tuer. Et nous aussi, on essaie de les tuer.
Alors Alex Garland, c'est un réalisateur qu'on connaît notamment pour avoir travaillé avec Danny Boyle sur les scénarios de 28 jours plus tard et de Sunshine. Il a ensuite réalisé Ex Machina, Annihilation, Men, il y a peu de temps. Il revient à la réal avec Civil War, un film beaucoup plus grand spectacle, grand public qu'avait pu l'être ses précédents films peut-être.
Moins intimiste que l'été Men, et même dans un autre registre, Annihilation en fait. Moins, il y a un cadre en fait où dans, même, enfin. Vraiment pour le comparer à Men, parce que généralement, une œuvre en enchaîne...
C'est pas du tout la même ambiance.
En rejet d'une autre, on va dire. Tu quittes, on va dire, la campagne anglaise et la maison, le manoir où l'héroïne de Men s'était réfugiée pour, en fait, la traverser façon road trip morbide... toutes les États-Unis qui sont en proie en fait à une guerre civile.
Oui, c'est ça. Peut-être pour redonner un peu le contexte du film, le film s'ouvre sur un message du président américain qui dit « Vous inquiétez pas, la rébellion va bientôt être totalement annihilée, justement. les dernières poches de rébellion sont bientôt détruites. Et puis au final, on se rend compte que c'est un gros mensonge. Et que son régime visiblement autoritaire...
Du moins son régime fédéral,
tout
quoi.
Tout à fait. Est sur le point de tomber, puisque en effet, il y a les forces en présence à Washington avec le président américain. Et en face, il y a une alliance entre la Californie et le Texas qui sont sur le point de mettre fin à ce régime-là. Et tout le film... Et c'est ça que je trouve que c'est vraiment la plus grande force du film, c'est qu'on va suivre des photo-reporters qui sont à New York dans une zone un peu grise parce que où il y a des combats, il y a des attentats, enfin tout est militarisé au final hein, à l'extrême dans ces séquences-là, et on va suivre ce groupe de photo-reporters qui doit absolument, qui veut absolument rejoindre Washington, mais c'est très compliqué puisque les autoroutes sont détruites, ils vont devoir passer par le cœur de l'Amérique, enfin les terres. Et tout le film, ça va être un road trip justement de leur point de vue pour aller assister à la fin programmée du régime du président en place. Parce qu'on sait dès le départ que le régime va tomber, que c'est plus qu'une question de jours, voire d'heures. Et je trouve que c'est ça la force du film, c'est une course contre la montre absolument folle du point de vue de photojournaliste. On suit pas des militaires, on suit pas des gars justement qui ont un régime. Enfin
oui, ou les deux camps, camps qui s'opposent.
Absolument. Et vraiment, je trouve que la question du point de vue est impressionnante et vraiment parfaite là-dedans. Il y a un road trip qui va ensuite qui va ouvrir le film où on va donc partir dans les terres à la rencontre de différents points de vue. Et c'est ça qui va être formidable parce que donc on a des photos reporters qui sont a priori neutres. Eux dans le combat, eux ils ont juste envie d'aller interviewer le président américain qui je crois n'a pas fait d'interview depuis presque plusieurs années, 18 mois si j'ai pas de bêtises, pour avoir son point de vue justement sur la fin de ce qui s'annonce pour lui quoi. Et tout ce road trip je le trouve fascinant parce qu'on va retrouver tous les personnages, les pros, les contres d'un côté comme de l'autre, les neutres, ceux qui s'intéressent pas forcément à ça, la détresse, en même temps la joie dans certains cas. Et tout ça, ensuite, va arriver à ce qu'on voit dans la bande-annonce, l'arrivée à Washington, qui est une espèce de séquence d'action façon Modern Warfare extraordinaire. Non, mais il y a un truc dans l'action, tout est de nuit, c'est une scène d'assaut.
Le changement d'échelle, il est assez large, en fait. C'est vrai que, comme tu dis, t'as cette impression de road trip, et d'un coup, tu bascules, dans ce dernier quart d'heure, 20 minutes, dans un final explosif, film de guerre, où t'as des tanks, des explosions partout. Mais
se donne les moyens vraiment de
oui, en fait, qui n'est pas gratuit. C'est ça l'avantage, c'est que je pense que Alex Garland, il a une vision, il a un propos qu'il veut mettre sur pied. Et je pense que quand il fait cette scène-là, elle n'est pas gratuite, elle n'est pas pour dire juste au public eh ben, voici ce qu'on attend d'un film de guerre ou d'un film où la moitié, une partie de l'Amérique est sur le point de s'effondrer. Mais je reviendrai surtout sur ce que tu disais sur le photoreportage, en fait. Déjà, prendre comme sujet des gens qui sont habituellement les témoins en fait, de quelque chose, c'est inverser une échelle. Je trouve ça hyper intéressant.
Ouais, c'est génial.
Je pense que, hormis le fait que ça soit un film road trip et aussi en même temps un espèce de documentaire, entre guillemets, parce qu'il faut aussi dire que la mise en scène, elle est très réaliste. Documentaire sur l'Amérique et sur l'Amérique telle qu'elle est aujourd'hui aussi, avec toutes ces différences, ces différences et ces fractures, hein, finalement.
Et cette polarité entre les deux camps qui fait que grimper. Ouais.
Ça en fait à la fois un film de guerre, un film de road trip. Je trouve qu'en même temps, il arrive à explorer les personnages de manière hyper sensible, notamment en dressant leurs traumas, mais aussi leurs aspirations professionnelles. Parce qu'on essaye de te dire qu'un journaliste, un photoreporter, en plus de ça, est juste là pour témoigner, ne doit pas agir. Et ce qui peut être très frustrant quand t'es juste un simple être humain aussi, et quand t'es face à cette violence-là. Donc ça te met vraiment en... Il y a une sorte de paradoxe que ça suscite chez toi. Et je trouve aussi qu'il y a une forme de coming of age avec le personnage de Kaylee Spiny, en fait.
Qui va suivre... qui aimerait suivre la trace du personnage de Kirsten Dunst.
C'est ça, et elle pareil, va se placer en tant que mentor. Donc je trouve qu'il y a plein de propos hyper intéressants. Et aussi sur ce qu'on peut dire sur l'Amérique, je pense qu'Alex Garland, c'est aussi un réalisateur qui réagit avec son temps. Et je pense que ce qui est le film est en réaction, je pense, à la prise du Capitole qu'il y a eu il y a quelques années. Je pense aussi que ça arrive, la sortie, à un moment où les États-Unis vont avoir leurs prochaines élections américaines, où Donald Trump, qui est un peu cette figure mystique qu'interprète Nico Ferman,
est pourrait
être élu. Donc je pense qu'aussi il y a cette le fait que ça soit sans concession, ce film, c'est aussi, je pense, il rejette aussi son propos et sa pensée à lui, en fait. Du coup, je pense même que ça en fait peut-être un film engagé dans un sens. Avec aussi cette, enfin, ou carrément même, mais et aussi avec la défiance des médias, le fait que ce soit des journalistes qu'on suit.
Il y a beaucoup de thématiques, en fait.
Ça en fait un film dense, mais qui reste solide, je trouve.
Mais je le trouve, moi, terrifiant.
Mais complètement.
Je trouve
que
j'ai 1000 fois plus peur devant un film comme ça que devant un film d'horreur classique avec bien une sûr. Nonne qui va courir dans le fond, dans la pénombre, en crachant du sang. Tu vois, il y a un truc de rapport à la réalité.
D'effondrement, quoi.
D'effondrement.
De dystopie, mais qui n'est pas vraiment.
Où tu te dis qu'en fait,
éloigné, mais...
potentiellement demain, en fait, ça paraît tellement proche du réel, un film comme Civil War, que ça en devient vraiment terrifiant. Où tu te dis que si demain il y a un problème de cette ampleur-là, tout peut s'effondrer vraiment en un claquement de doigts et c'est assez.
Puis il y a quelque chose d'un peu absolu, il n'y a pas d'échappatoire, alors qu'une nonne dans une église, bon, tu vas pas dans l'église au pire, tu restes en
j'ai
dehors.
J'ai trouvé la solution,
20 ans d'histoire, n'y va pas. Alors que là, il y a quelque chose d'absolu et d'irrémédiable qui est intéressant aussi dans la construction.
Ouais, et puis je pense aussi que ça... Je pense qu'effectivement, là où ça nous fait peur, c'est qu'on a conscience que ça peut arriver et que ça aussi, ça montre que la guerre, en fait, elle n'est pas que d'un côté du monde, elle peut aussi arriver en Occident. Et je pense que ça convoque plein de choses chez nous, des traumas viscéraux qui fait que ça fonctionne. Et ça fonctionnait déjà avec Ex Machina, en fait.
Et c'est ce que disait...
C'est là-dessus où il est fort.
C'est ce que disait Kirsten Dunst, enfin, c'est ce que dit son personnage dans le film. Je pensais qu'on... qui est donc photoreporter, je pensais qu'en allant couvrir des conflits à l'étranger, c'était pour envoyer un signal d'alarme à mon pays, donc aux États-Unis, pour attention, faites gaffe, ne reproduisez pas les erreurs de là où je suis allé. Et je trouve que ça, c'est une réplique ultra forte du film et qui a un impact.
En espérant que le film d'Alex Garland soit le signal d'alarme.
Tout à fait, qu'il soit absolument pas prophétique. On va peut-être pas en arriver là, mais en tout cas, c'est un film vraiment très impressionnant. Et je crois d'ailleurs, Lisa, que à cette occasion, tu voulais nous parler d'une des œuvres de son réalisateur, donc Alex Garland, qu'on ne fait que citer, et en particulier sur son premier film en tant que metteur en scène, Ex Machina.
Complètement, et le fait en fait que tu mentionnes le mot prophétique me donne une transition toute trouvée.
Impossible à prédire, et l'avenir...
Lorsque je découvre Ex Machina en 2014, je prends une claque. Je découvre un film de science-fiction unique en son genre qui interroge l'intelligence artificielle sous la forme d'un test de Turing étonnant, qui plus est à la photographie impeccable. La rencontre de Caleb et Nathan, puis de Ava, visant à déterminer si cette dernière est douée de conscience ou non, a vu naître un nouveau réalisateur, celui d'une science-fiction psychologique, dystopique, mais aussi métaphysique et engagée. Dans Ex Machina, Alex Garland interroger cette nouvelle forme de vie déconnectée bien avant que sa place ne soit au cœur du débat sociétal, bien avant que son encadrement nécessaire ne pousse Hollywood à faire la grève. Avec le recul, on se dit qu'Alex Garland avait peut-être prédit l'avenir. Le réalisateur et scénariste britannique serait-il un voyant ? En tout cas, c'est quand son cinéma devient prophétique, merci Alexis, qu'il est le meilleur. En parlant d'un monde futuriste pourtant proche de nous, l'artiste convoque nos peurs les plus viscérales et interroge l'avenir de notre humanité de façon cynique, sans concession. Cérébral, sobre, magistralement porté par Oscar Isaac, Domhnall, Gleeson et Alicia Vikander, le film apporte à l'époque un vent de fraîcheur à la science-fiction moderne. De quoi décrocher une nomination à l'Oscar pour meilleur scénario original en 2015, une belle reconnaissance quand on y pense pour celui qui a fait ses armes dans le cinéma en tant que scénariste pour 28 jours plus tard ou Sunshine. Déjà dans les années 2000, Alex Garland se passionne donc pour la science-fiction. Pas étonnant qu'il ait choisi ce genre comme contour de son premier film. On aurait pu cependant croire que le réalisateur allait se nourrir de ses précédentes expériences en inventant une énième invasion zombie, en filmant la conquête solaire ou encore en plongeant les spectateurs dans une mégalopole en proie aux pires vices comme dans le film Dread qu'il écrit en 2012. Non, pour son premier film, Alex Garland choisit l'intelligence artificielle. Mais là encore, me direz-vous, le sujet a maintes et maintes fois été traité au cinéma. Du Terminator de James Cameron à iRobot avec Will Smith en passant par AI, intelligent artificiel de Spielberg, plusieurs réalisateurs ont essoré le sujet en imaginant un futur dystopique. Mais là où réside le génie d'écriture de Garland pour Ex Machina, c'est qu'il se place aux origines de la création, à la naissance de la conscience finalement dans un huis clos. Là où les films d'intelligence artificielle sont généralement des longs métrages à grand spectacle, en témoigne le dernier Gareth Edwards, The Creator, Ex Machina est plus intimiste et prend le temps de poser sa réflexion. Le film ne manque pourtant pas de rythme ni de tension. Il oscille constamment entre thriller, romance, une forme de cynisme envers les manias de la tech et de la Silicon Valley, tout en questionnant avec philosophie la conscience. Ainsi, les scènes de dialogue entre le mystérieux Nathan et Caleb sont passionnantes, parfois même nerveuses, tandis que celles avec Ava sont pleines de subtilité et de poésie. Il en ressort un film incroyablement dense et pourtant solide dans son propos à la direction artistique, il faut encore le souligner, magnifique, qui en un rien de temps est devenu culte. Est-ce dû à cette scène de danse déjà iconique sur Get Down Saturday Night, à l'interprétation d'Alicia Vikander à la fois belle et sexy dans le un corps mécanique d'un robot, ou à cette fin déchirante, difficile de le dire aujourd'hui ? Peut-être l'assemblage de tout ce que l'on développe depuis 3 minutes, et qu'il finira par parachever dans une série d'anthologies que je ne peux que vous recommander, Devs. En tout cas, pour un premier film, Alex Garland a su taper fort et devenir un réalisateur que l'on attend désormais à chaque nouvelle sortie au cinéma. Sauf que pour son second, c'est à Netflix qu'il fait appel. Il signe Annihilation, un film de SF pur porté par Natalie Portman, dans lequel la linéarité d'Ex Machina laissait place à un discours obscur et à une écriture méta, doublée très certainement par l'envie de la plateforme d'offrir du grand spectacle SF. Le réalisateur ne passera pas le challenge du second film. Il faudra ainsi attendre 2022 pour qu'Alex Garland revienne avec un film plus intimiste, mais toujours aussi sombre, intitulé Men. Terrifiant et nourri par les événements post-MeToo, le film proche du cinéma d'auteur aura du mal à trouver son public. Malgré une métaphore féministe bien sentie, ça ne passe toujours pas. Fort heureusement, aujourd'hui, Alex Garland est de retour avec Civil War, un film dans la continuité de son premier, un film qui interroge finalement autant le présent que le futur, et dans lequel le cinéaste se pose une nouvelle fois en tant que prophète. En montrant une Amérique au bord de l'effondrement, la guerre, mais aussi en focalisant son propos sur un groupe de photoreporters, Alex Garland interroge l'avenir du monde et des États-Unis à la veille de l'élection américaine, mais aussi le rôle du journalisme à une époque où la défiance envers les médias est de mise. Avec Civil War, il revient à ce qu'il sait faire de mieux, offrir un cinéma dystopique, terrifiant, engagé, intelligent, mais aussi et surtout impitoyable. Si l'échelle façon road trip est moins challengeante que celle d'une villa terrée dans les bois d'Ex Machina, l'artiste y convoque ses obsessions et cette violence explosive, une violence qui était déjà le pivot de La Plage, son chef-d'œuvre littéraire. Preuve, encore une fois, qu'Alex Garland anticipe l'avenir.
Grand anticipateur, donc, cet Alex Garland. Merci, bravo, Lisa, merci pour ce billet. T'étais contente, toi, de le revoir à la réalisation sur un projet comme ça ?
Ouais,
t'as découvert Civil War ?
Ça faisait vraiment du bien, parce que même si Men était intéressant dans son propos, je trouvais qu'Annihilation avait été quand même un gros faux pas après la claque Ex Machina. Et en fait, le revoir... convoquer autant de ses obsessions, c'est intéressant. Pourtant, c'est une autre échelle, hein. C'est un autre challenge. Et je trouve que le huis clos est quand même plus challengeant, je pense, pour un réalisateur.
Mais il faut beaucoup plus jouer avec l'espace. Et c'est vrai que sur Civil War, c'est avec la notion de road trip qu'on évoquait tout à l'heure, c'est assez différent.
C'est plus ample, mais c'est tout aussi intéressant. Et en fait, je trouve que et c'est là où je pense ses racines de scénariste et d'écrivain jouent, c'est qu'il arrive à avoir à la fois une conscience d'écriture et une conscience de juste simple citoyen du monde qui font que ça fonctionne en fait. Et quand c'est moins méta, moins sombre, et qui se perd moins dans une métaphore, on va dire. Je pense qu'il peut trouver son public et nous offrir des grosses claques, en fait.
Et ça offre donc Civil War, qui est à découvrir cette semaine en IMAX au cinéma. Avant de partir à la rencontre de la réalisatrice de Rosalie, on vous offre 2 places cette semaine, 2 places de cinéma pour découvrir le film de votre choix chez Pathé. Pour participer, c'est très simple. C'est l'heure du petit jeu concours, hein, Robin. Attention, tu n'as pas le droit de participer.
Dommage.
Si tu veux une place de ciné, je t'enfilerai une, c'est cadeau. En tout cas, pour tenter de gagner ces 2 places de ciné valables chez Pathé, c'est très simple. Pour participer, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Sur Apple Podcast, 5 étoiles et un petit commentaire dessous. Et sur Spotify, c'est en commentaire de l'épisode directement, plus ces 5 étoiles sur le podcast en général. Un petit avis gentil, bien sûr. Et en commentaire, ensuite, sur Instagram de la publication du mardi, jour de sortie du podcast, sur l'Instagram de Pathé France. Vous allez mettre un petit commentaire, vous mettez juste le pseudo que vous avez utilisé pour poster votre commentaire sur Apple ou sur Spotify, et un tirage au sort aura lieu de la semaine prochaine parmi les participants pour offrir donc 2 places de cinéma. J'en parlais à l'instant, Rosalie, on est parti à la rencontre de sa réalisatrice Stéphanie Di Giusto. Avant ça, un petit extrait de la bande-annonce, et puis après, on part directement à sa rencontre. Rosalie, c'est donc un film réalisé par Stéphanie Di Giusto, porté notamment par Nadia Tereskevich et Benoît Magimel.
Mon père a essayé tous les remèdes quand j'étais petite.
Vous êtes née comme ça. Vous m'avez menti. C'est monstrueux.
Monstrueux.
C'est ça ta dot. Et le reste?
J'ai besoin encore un peu de temps.
Quel temps? Il n'y en a plus du temps.
J'espère juste que vous soyez différents.
Et moi, vous soyez comme les autres.
Stéphanie Di Giusto, bonjour.
Bonjour.
On est là pour parler ensemble de Rosalie, un film actuellement au cinéma. Un film... pour lequel tout va partir d'une rencontre avec un personnage que vous allez découvrir qui s'appelle Clémentine Delay, ouais, si j'ai bien compris.
Tout à fait.
Est-ce que vous pouvez nous parler de cette rencontre-là avec
alors,
ce personnage-là ?
Clémentine Delay, en fait, c'est une femme à barbe, célèbre début 20e siècle, qui vivait dans les Vosges, en fait. Et quand j'ai vu le visage féminin de cette femme avec une barbe, ben j'ai trouvé ça mystérieux. Je trouve qu'elle avait bizarrement une grâce, en fait. J'ai voulu percer son mystère. Et en fait, moi, ce que j'aimais bien chez Clémentine Delay, c'est qu'elle avait toujours refusé de devenir un banal phénomène de foi, en fait. Elle voulait avoir la vie d'une femme. Et c'est ça, moi, qui m'a beaucoup plu chez cette femme. Mais en fait, j'ai pas voulu faire un biopic. Et je me suis inspirée d'autres femmes atteintes d'hirsutisme. C'est le nom de ce trouble génétique, en fait. Et donc, j'ai voulu réinventer le destin de Rosalie. Et en fait, j'ai voulu inventer le destin d'une femme, voilà, qui se libère en assumant sa barbe, justement. Mais j'ai surtout, avant tout, voulu raconter une histoire d'amour sans condition.
Et à quel moment, justement, vous dites que vous voulez pas faire un biopic, à quel moment on part de cette histoire qui est vraie, son histoire, l'histoire de Clémentine, pour ensuite infuser de l'imaginaire, justement, et l'histoire de Rosalie? À quel moment on fait ce passage dans l'écriture, que ce soit en tant que scénariste et réalisatrice?
Tout de suite, parce qu'en fait, quand je lis l'autobiographie de Clémentine Delay, il y a quelque chose qui me manque.
D'accord.
Elle parle, étrangement, elle ne parle jamais de son mari, en fait. Et moi, j'avais peut-être besoin d'amour moi-même en tant qu'auteur, et je me suis dit, mais c'est quoi en fait aimer cette femme, et cette femme, comment elle se sent désirée, et tout ça, et tout ce questionnement, en fait. Donc j'ai voulu m'accaparer justement toute l'histoire intime et d'amour de cette femme. Donc je me suis dit, très vite éloignée de Clémentine Delay, qui va perdre d'ailleurs son mari assez rapidement, en fait.
Et c'est une question aussi que peut-être j'avais pas posée la première fois qu'on s'est rencontrés, mais pourquoi Rosalie et pas Clémentine, en fait?
Parce que justement, c'est pas du tout sa vie, et je me permettrais pas, vu que ce n'est pas un biopic, pourquoi j'appellerais mon héroïne Clémentine?
Non, mais sans lui donner le nom de famille
suite. Rosalie, parce que déjà, j'adore les L dans les prénoms, et surtout, c'est un personnage très solaire qui donne des roses à chaque fois autour d'elle, et c'est pour ça que j'avais l'envie de l'appeler Rosalie, tout simplement.
Et quand vous avez cette histoire en tête, ce personnage, cette vision-là, à quel moment vous arrivez à donner les contours un peu du film que vous avez envie de créer en termes de couleurs, d'images, de photographie, de souffle? Comment vous...
À l'écriture, ouais. Je ne m'intéresse qu'à la trajectoire humaine des personnages et l'émotion et le ressenti, vraiment de... C'est l'intériorité. Je voulais vraiment, sur ce film-là particulièrement, je voulais explorer les sentiments, décortiquer le désir. Donc j'ai vraiment fait un travail d'écriture vraiment intérieur. Et puis après, il faut se confronter à la réalité, et c'est aussi ce qui est le plus excitant. C'est tout d'un coup, il faut lui donner corps à cette femme. Mais par exemple, quand j'ai écrit le personnage de Rosalie, je n'ai pas d'actrice en tête, par exemple. Puisqu'en fait, j'ai été obligée de faire des essais avec des comédiennes avec une barbe et un costume, en fait. Parce que sinon, on ne peut pas se rendre compte. La barbe, ça donne une perception tellement différente de la comédienne qu'on est obligé de faire cet acte créatif-là, de voir en vrai ce que ça donne.
Une comédienne, voilà. Nadia Tereskevitch, que vous allez croiser dans la rue, si
oui,
j'ai bien compris.
Oui, c'est ça, l'histoire assez dingue, en fait. C'est que je ne la trouvais pas, justement, ma Rosalie. Et que, par hasard, c'était pendant le Covid, je croise Nadia Tereskevitch. Elle portait un masque, en fait, et j'ai reconnu ses grands yeux parce qu'on avait travaillé 6 ans auparavant, puisque elle jouait en fait dans mon premier film le rôle d'une jeune danseuse. Et du coup, je lui ai dit de venir passer les essais. Et en fait, c'est très fou parce que toutes les autres comédiennes, et c'est normal, elles avaient une coquetterie d'actrice, elles se regardaient dans le miroir, elles se grattaient. Voilà, on sentait que c'était quelque chose, et c'est normal, c'est pas anodin une telle transformation. Et Nadia, en fait, il y avait quelque chose comme ça d'évident. Voilà, elle faisait corps avec cette barbe. Et puis Nadia, surtout, elle a cet enthousiasme naturel qui correspondait à mon personnage. Elle est solaire, elle a comme ça cette énergie pure dont j'avais besoin. Et surtout, même avec une barbe, elle est sensuelle et elle est troublante. Et c'est ça qui est assez fou chez ce personnage. Et en plus, jeune danseuse. Donc elle sait ce que c'est le regard des autres, le jugement des autres, puisqu'elle correspondait pas forcément aux critères de la danse classique. Donc voilà. Rosalie était née avec Nadia.
Et vous parlez justement de l'aspect romance du film et du rôle du mari de Rosalie. On a la rencontre avec Benoît Magimel en face, qui a dû sans doute aussi être importante pour vous par rapport à la construction de votre film. C'était quelle rencontre avec Benoît ?
C'est une des plus importantes du film, puisque c'est un miracle dans le film, la présence de Benoît Magimel. Déjà, c'était très risqué pour un acteur d'accepter cette mise à nu. C'était pas évident d'affronter un tel personnage féminin. Et en fait, j'avais l'impression que Benoît Magimel, c'était le seul, en fait, de sa génération à avoir cette incarnation à la fois intérieure et physique comme ça. Il est aussi une sorte d'animal, un animal fabuleux, comme je dis si souvent. Et en plus, voilà, Benoît Magimel, il est dans l'émotion pure en permanence. Il est vraiment, je dis toujours, il rend tout mieux, en fait. Et il fallait une sorte de sincérité à ce personnage. Et en fait, et son rôle est très important parce qu'en fait, il joue le rôle d'un homme blessé, en fait. Il est très meurtri par la guerre, il ne croit plus en rien et Rosalie va le mettre à l'épreuve. Donc, il y avait comme une évidence avec Benoît. Et ce qui est très intéressant avec lui, quand on travaille avec lui, c'est que quand il sent pas quelque chose, ça ne fonctionne pas, il va trouver un geste, une respiration, voilà, et il va rendre vrai quelque chose qui ne l'est pas forcément au début. Et ça, c'est très intéressant. Il a vraiment la grâce.
Et vous parlez d'une chance, ça a été quelle rencontre avec vous, avec lui, pardon.
Justement. Alors, c'est pas du tout comme... C'est moi qui le veux absolument. Ouais. donc, je l'attends jusqu'à temps qu'il lit, jusqu'à temps qu'il y ait un intérêt. Donc, d'où l'importance de l'écriture.
Bien sûr.
Parce que, voilà, j'ai écrit particulièrement une écriture soignée pour donner à voir ce personnage. Et quand on s'est rencontrés chez lui la première fois, voilà, c'était primordial. On n'a même pas eu, on a compris que l'un et l'autre, on se comprenait, en fait.
Et quand vous écrivez son personnage, vous avez un type de personnage en tête? Parce qu'on dit qu'on n'écrit jamais pour un acteur, mais est-ce que vous avez une typologie de personnage?
Oui.
Ouais.
Oui. Charismatique. Voilà, un homme dont on tombe amoureux. Donc, c'est le plus rare au cinéma. Donc, voilà. Donc, oui, j'ai en tête quelque chose. D'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé sa silhouette avec Benoît. En fait, il porte au début du film, il porte un corset qui grince. On a beaucoup travaillé le son, donc son corps, il est douloureux, il grince. Et puis petit à petit, lui aussi va se libérer parce que finalement, c'est lui qui va lâcher prise, qui va libérer son désir et avec lui, son humanité. Donc, c'est ça qui est... Il y a deux libérations dans le film, en fait. Et à la fois Rosalie qui devient une femme et lui qui redevient un homme, en fait.
Et puisqu'on parle de rencontre aussi, c'est une rencontre. Il y a votre rencontre avec Benoît et vous retrouvez avec Nadia, mais il y a aussi leur rencontre à eux deux qui a été quand même assez décisive et qui a été peut-être pas mise en scène, mais coordonnée par vos soins sur le tournage pour qu'ils rentrent dans leur personnage aussi.
Oui, complètement, parce qu'en fait, elle est filmée, cette première rencontre. C'est-à-dire que pour moi, c'était très important qu'ils ne se rencontrent pas du tout avant le tournage, vraiment, vraiment. Et là, s'ils étaient dans le même festival de Cannes avec chacun un film, donc je leur demandais chacun l'un et l'autre, surtout ne discutez pas, n'allez pas dans des fêtes, voilà, n'allez pas gâcher ce moment si précieux qu'est le premier regard. Et donc dans le film, le premier regard sur la charrette, c'est vraiment la première fois que Benoît pose les yeux sur Nadia et Abel pose les yeux sur Rosalie. Et on a construit, et même en dehors des prises, ça se passait comme ça. Même sur le plateau, en fait, je voulais qu'ils conservent ce mystère l'un et l'autre pour qu'à chaque fois ils donnent quelque chose, ils se retiennent, en fait. Ils se retiennent jusqu'à temps d'être sur le plateau avec le mot moteur, quoi. C'était très important.
Et est-ce que cet exercice-là de mise en scène, on va dire, c'est quelque chose que vous aviez déjà expérimenté sur votre premier film ou au contraire, c'est quelque chose de nouveau que vous expérimentez en tant que metteuse en scène ?
Pas du tout. C'est la première fois que je faisais ça et c'est un instinct, un besoin pour ce film-là. Alors que le premier film qui racontait l'histoire d'une danseuse, c'était très, très répété, très... Non, non, non. Là, c'était vraiment, je me suis dit, c'est un instinct. Et aussi de tourner dans l'ordre chronologique, très important. Ça, c'est un luxe inouï puisque j'étais dans un décor unique assez spectaculaire. Et en fait, ça m'a permis voilà, de construire leur rapport au fur et à mesure du film voilà, et de faire naître les sentiments au fur et à mesure du film.
Et ça, c'est avoir une confiance quand même totale en son casting.
Ah oui, là,
il n'y a pas de première lecture.
Là, il faut avoir les meilleurs. Et ça tombe bien, je crois que je les ai eus.
Et vous mentionnez tout à l'heure le fait que le personnage justement de Benoît était marqué par la guerre. C'était quel travail à l'écriture et aussi à la réalisation derrière de s'emparer d'un sujet, d'un passé, d'un passif de personnage, d'une époque, d'un lieu? Est-ce que c'est beaucoup de contraintes ou au contraire des libertés par rapport aux thématiques que vous vouliez évoquer?
Non, c'est fascinant déjà à s'intéresser à cette guerre franco-prusse qui est très peu connue d'ailleurs des Français. C'est la toute première grande guerre en fait, avant les deux autres grandes guerres. Et c'est une guerre particulièrement meurtrière, très courte, mais avec beaucoup, où les gens ressortent de là très humiliés, très blessés. Donc tout ça m'a beaucoup intéressée. Il y a un climat de suspicion totale entre les gens. Ils sont vraiment meurtris dans leur chair et c'est ça que je trouvais beau. Et avec Benoît, on a beau. D'ailleurs, c'est toujours pareil. Hein. Il y a des premières versions de scénario. J'avais écrit des scènes de guerre, mais ça aide aux acteurs quand ils lisent des scènes après qui disparaissent. Ça aide quand même à s'imprégner des personnages. Et on s'était dit, par exemple, à Benoît, c'est quoi de voir mourir quelqu'un? C'est tout ça, toutes ces problématiques qui font que, il absorbe des choses pour vivre au présent son personnage. Donc oui, c'est très très important. Et puis c'est juste fascinant aussi. C'est le début de la révolution industrielle, le début du capitalisme, le début du paternalisme social, joué par Benjamin Biolay, incarné le rôle du patron de l'usine. Donc tout ça est juste fascinant. L'époque, de toute façon, est fascinante.
Non, mais c'est pour rebondir sur ce que disait Robin, justement, sur le film d'époque et l'époque, c'est intéressant parce qu'il y a toutes ces problématiques qui se mettent en place, notamment sur le début du capitalisme et ce genre de choses, et même l'influence du protestantisme, ce genre de choses. Et en même temps, c'est pas un huis clos, mais on est dans un environnement très restreint au niveau de la mise en scène, finalement. C'est le café, c'est l'usine, c'est la chambre.
Ouais, mais c'est un monde à lui tout seul.
Mais c'est très bien. Mais c'est ça. Je trouve que c'est un challenge encore plus.
C'est un challenge,
quoi.
C'est comment.
J'ai l'impression que c'était pas un reproche. Hein.
Non. Je sais, c'est comment dans. C'est ce que j'ai senti pour ce deuxième film. Comment dans peu de choses, il peut se passer des grandes choses. Autour d'un lit, il peut. Moi, je pouvais passer un film entier autour d'un lit, en fait. Mais autour d'une table et tout. Et en fait, si on se rend compte que dans les choses les plus simples, se passent les choses les plus fortes, en fait, finalement. Et puis même, ça m'a beaucoup intéressé de travailler. J'avais 45 figurants seulement et c'était toujours les mêmes tous les jours. Parce que je me suis dit, dans un village, on rencontre toujours les mêmes personnes. Donc à chaque fois, c'était assez une contrainte aussi. Je voulais que toujours il y ait les mêmes personnes parce qu'au final, à la fin, tout le monde se connaissait. Mmh. Et donc, c'est...
Puis il y a cet aspect aussi que Rosalie, à un moment peut-être, est trahie par cette famille-là, finalement, ah bah, aussi. C'est ça qui
évidemment.
Reste...
Évidemment, parce que c'est toujours le problème de cette liberté. C'est qu'à un moment, la liberté, elle dérange quand on va trop loin, quand elle déborde. Et finalement, Rosalie, ça reste quand même quelqu'un qui n'est pas dans la norme. Et finalement, comme d'habitude, elle devient le potentiel danger de la société et devient responsable de tous les désordres. Et voilà, c'est l'histoire du bouc émissaire qui... Et au début, forcément, tout le monde l'aime bien parce qu'elle reste dans les quatre murs de son café comme une cage, en fait. Donc forcément, elle est dans le divertissement qu'on a l'habitude de voir. Sauf que quand elle commence à vraiment s'émanciper, à aller plus loin, à carrément, même quitte à aller plus loin, à se montrer encore plus, là, tout d'un coup, on atteint les limites. Et là, la violence arrive, voilà, qu'on connaît bien, qu'on retrouve dans la société actuelle, d'ailleurs.
Moi, j'aimerais qu'on parle d'une chose, vous le mentionniez un petit peu tout à l'heure, c'est le cadre dans lequel s'inscrit l'histoire de Rosalie, un cadre sublime. Quel genre de repérage c'est? Déjà, en tête, on a quoi comme référence quand on écrit ça? Et puis, quand on va faire ces repérages,
ouais.
Comment on se débrouille pour trouver un endroit
tout,
comme celui-ci?
Tout un processus. D'abord, je vais dans les Vosges, parce que Clémentine Dehaye vient des Vosges. Donc déjà, moi, dans mon travail, il y a un travail presque journalistique, mm-hmm. où, par exemple, je veux aller rencontrer un industriel dans les Vosges. Donc, je me déplace pour voir s'il existe une usine, une blanchisserie. Tout ce travail-là, d'ailleurs, qui est très excitant et qui modifie l'écriture aussi. Parce qu'effectivement, j'ai rencontré par exemple un taxidermiste dans les Vosges. C'est lui qui a entraîné Benoît Magimel parce que c'est ce qu'il fait comme activité. Tout ça, voilà, très important. Mais je ne trouve pas mon village. Impossible de trouver le village. Et je cherche au hasard sur Internet et je tombe sur des magnifiques photos d'une forge dans la forêt. Je me dis, mais c'est extraordinaire. C'est où ? Et c'est en plein fond de le centre-Bretagne. On est près de Pontivy. Alors évidemment, c'est une mauvaise nouvelle pour la production puisque finalement, non, nous allons de l'autre côté de la France et du coup, je découvre ce village et là, ça fait partie des miracles du cinéma où j'ai 1400 pièces vides qui m'attendent, conservées dans l'époque. C'est-à-dire que c'est une famille qui entretient ces forges depuis des générations. Ça appartient à leurs ancêtres qui étaient des forges. Et donc, même le café que vous voyez dans le film, c'est l'auberge des ouvriers du village. Donc, je n'ai touché finalement à rien. D'ailleurs, je ne crois pas trop à la reconstitution dans les films d'époque. J'ai l'impression que ça fait faux souvent. Et là, tout ce que vous pouvez voir, ça a vraiment existé. Et d'ailleurs, il y a même une hiérarchie dans le village. Vous voyez la rangée des maisons des forgerons. Et finalement, les maisons des maîtres, ils ont 2 étages. Ils ont droit à 1 étage en plus. Tout ça est très hiérarchisé à l'époque. Parce qu'il y a toute une vie autour de l'usine. Et c'est ça qui était passionnant.
Et c'est-à-dire que c'est un lieu dans lequel vous êtes arrivé, vous n'avez quasiment rien touché. C'est-à-dire que c'est préservé, c'est pas, aujourd'hui, ce n'est pas utilisé à des fins industrielles.
Non, pas du tout. Ça s'est arrêté, sauf que la famille, pour préserver son patrimoine, s'en occupe. Voilà, s'occupe de restaurer ce village incroyable.
Et c'est quelle expérience de tournage, justement, quand on arrive là avec, avec ses camions régie, avec ses caméras?
C'est une chance parce que, alors déjà, j'y vis avec Nadia. On est toutes les deux à vivre sur le village parce que, vu qu'elle se lève à 3 heures du matin pour sa transformation, ça lui fait des trajets en moins. Donc, on a chacun une maison de forgeron, l'une et l'autre.
Combien de temps sa transformation?
4 heures.
4 heures.
4 heures, voilà. C'est une technique spéciale qui fait que ça prend beaucoup de temps. Et du coup, ça lui permet d'ailleurs de posséder le personnage, de s'immerger le matin, c'est très bien. C'est comme un rituel. Donc moi, je la rejoins assez rapidement puisque je ne suis pas très loin. Et puis, on commence à rêver le film le matin. Donc, il y a tout un processus comme ça. Et je trouvais ça bien que Benoît soit un peu en dehors justement du village. Et il venait nous rejoindre comme ça. C'était un peu notre rituel à nous.
Et on l'a un petit peu évoqué, justement, je passe à un autre sujet. Dès le début du film, on sent que la notion de pudeur et de ce qu'on va pouvoir dévoiler ou attendre de dévoiler, de jouer un peu avec ce qu'on montre et ce qu'on ne montre pas, est important. Comment est-ce que vous avez géré ça déjà lors de l'écriture et aussi lors de la mise en scène et peut-être même du montage ou au gré du tournage de...
Ben, en tout cas, c'était le jeu. C'était que moi... part du principe que c'est beaucoup plus intéressant de ne pas montrer que de montrer. C'est là où la tension du désir monte et c'est très important. Donc ça, c'est déjà écrit. Mais c'est vrai que, par exemple, la nuit de noces, c'est le rendez-vous du film. C'est-à-dire, si je n'ai pas cette scène, j'ai pas de film, en fait. Donc il y avait une grande tension sur le plateau. Je me souviens très bien parce que Nadia, c'est la double peine. Non seulement elle est vendue à un homme qu'elle ne connaît pas. Donc déjà, c'était une tension énorme pour les jeunes femmes de l'époque parce que là, c'était l'habitude. Et en plus, il y a cette particularité qu'elle a, qu'elle n'a pas révélée. Donc, elle est dans le mensonge. Donc, pour les deux personnages, c'est compliqué. De l'autre, de Rosalie, de se dévoiler. Et puis, Benoît, de découvrir le mensonge qui, pour lui, est une trahison ultime. Voilà. Donc, en fait, il y avait une tension énorme sur le plateau. Il y a beaucoup de plans séquences, donc il y a très peu de prises et on sent une charge émotionnelle. Nadia, à un moment, je ne comprenais pas le bruit. J'entendais toquer contre la porte. Je me disais, mais qu'est-ce qui toque contre la porte? C'était sa main tellement elle tremblait. Voilà. Et c'était tellement elle était dans un état. Elle a dû s'en remettre. Voilà.
Comment vous diriez que votre premier film, La Danseuse, parce qu'on l'a un petit peu évoqué, a infusé Rosalie? En quoi ça vous a peut-être aidé, ou au contraire, vous êtes complètement détaché de la méthode de réalisatrice que vous avez sur votre premier film, et en quoi votre premier film vous a aidé sur ce second?
Je voulais faire le contraire, en fait. Je voulais simplement... Parce qu'en fait, même s'il y a une continuité, parce que ça, c'est la manière de mettre en scène, en fait. Donc ça, je ne peux pas m'en empêcher. Mais en tout cas, dans le fond, je sais que j'ai beaucoup souffert, et c'est normal, du manque d'amour qu'il y avait dans La Danseuse. Même s'il y en avait, en tout cas, je racontais le portrait d'une artiste qui était enfermée dans son art, ou l'art plus fort que tout, plus fort que la vie. Et là, j'avais vraiment ce besoin d'amour, d'humanité, quoi. Je trouvais qu'on vivait une époque... On vit une époque terrifiante avec un mode de vie qui se déshumanise, une époque réactionnaire, très moralisatrice. Et j'avais l'impression que j'avais juste besoin de quelqu'un qui me réconcilie avec la vie et que ce personnage, justement, allait m'aider. Donc j'étais vraiment... je savais que La Danseuse, c'est un grand film épique qui traverse, qui passe des États-Unis jusqu'à Paris. Et là, j'avais envie d'être avec des êtres humains.
Voilà. Oui, un film se fait toujours en réaction avec le précédent.
Donc il était plutôt en réaction.
Mais en même temps, il y a une continuité dans vos thèmes.
Complètement.
Le corps, le désir, le personnage féminin aussi au centre de l'histoire. Il y a quand même une certaine continuité.
L'œil Fuller, c'était quelqu'un qui arrivait à faire quelque chose de beau en se cachant dans des voiles. Et là, j'ai un personnage qui s'assume telle qu'elle est et qui dit « moi, je suis belle avec une barbe ». Voilà, tout simplement.
Et quelle redécouverte ça a été de votre film une fois que vous êtes arrivé en salle de montage? que vous aviez peut-être pas ces centaines d'heures de rush, probablement.
J'ai eu un petit problème déjà avec Benoît, puisque j'avais 2h45 de film avec 45 minutes de Benoît en trop, parce que j'étais trop dans la complaisance. On
n'a pas envie de couper. Ouais.
Voilà, on n'a pas envie de couper, donc c'était très embêtant. Mm-hmm. Puis à un moment, ma monteuse, elle va dire, attends, maintenant, va falloir... donc non, je le dis sincèrement, j'ai eu une matière formidable où il a fallu choisir. Et beaucoup de plans séquences où au début, j'étais carrément dans la contemplation et il a fallu donner du rythme à tout ça. Mais ce que j'ai voulu faire aussi, c'est sans musique, contrairement au premier film qui était très 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 dans la musique puisque je filmais la danse. Là, c'est eux, c'est leur respiration, c'est leur souffle, c'est le frottement de leur peau, c'est voilà, tout ça que j'avais envie de travailler. Et après est venue la musique, que je ne trouvais pas d'ailleurs, impossible de trouver cette musique, voilà. Mais ça y est, je l'ai trouvée grâce à une jeune femme incroyable que je vous conseille d'écouter, Anya Rani, qui a des albums incroyables de musique classique, qui est une jeune prodige, 25 ans. Et c'est elle. Et quand je l'ai vue sur une vidéo, sur scène, de dos, au milieu de trois pianos, une telle puissance, je suis allée la voir à Londres et je lui ai dit, est-ce que ça vous intéresse de faire de la musique de film ? Et elle a mis de la musique, c'était la seule qui est arrivée.
Il y a Benjamin Biolay, il y a Juliette Armanet dans le film. Quelle rencontre ça a été avec eux ? Est-ce que vous les connaissiez déjà de longue date ? Comment ils sont arrivés sur ce projet-là ?
Alors, autant je voulais pas que Benoît et Nadia se connaissent, mm-hmm. autant j'ai voulu créer une famille autour de Nadia. Un point commun, je sais pas, fallait que j'ai une attache. Ouais. Et je savais que Benjamin Biolay l'avait filmé dans deux de ses clips. Donc forcément, je savais qu'il la considérait pour faire ça. Donc voilà. Et moi, ce qui était très important dans le rapport avec Benjamin et Nadia, ce qui est beau dans cette histoire de patron d'usine, c'est qu'il maîtrise toutes ses ouvrières, tous ses ouvriers, la seule qu'il n'arrive pas à maîtriser et à posséder, c'est elle. Donc j'aimais bien l'idée de cette frustration comme ça en lui. Donc on a beaucoup travaillé, puis même l'autorité, c'est un être profondément gentil, généreux, il est tout le contraire évidemment de ce qu'il y a dans le film. Et du coup, lui, ça l'amuse surtout d'aller ailleurs. Donc d'être dans un truc très rigide comme ça, sur la manière de se tenir, on a beaucoup travaillé sur le débit de parole, parce qu'il est beaucoup plus d'habitude, il prend plus de temps à parler, là, voilà, donc tout ça, c'était super excitant. Juliette, pareil, c'est fou, Juliette Armanet. En fait, je savais que Juliette Armanet avait adoré Les Amandiers et le rôle de Nadia dans Les Amandiers. Et je savais que Nadia écoutait en permanence Juliette Armanet. Donc j'avais besoin de...
Une réciprocité passionnelle.
Entre elles ont l'une et l'autre envie d'être l'une et l'autre. Donc il y avait quelque chose forcément qui allait se passer. Et on a aussi Serge Boson qui est metteur en scène, qui joue le rôle d'un photographe. Voilà, donc je soigne particulièrement tout et je mets tout au même niveau, surtout.
Et justement, à la fin, est-ce que le film ressemble à ce que vous aviez au début en tête ou est-ce que vous avez découvert un autre film même pour vous ?
En tout cas, il m'a fait ressentir ce que je voulais ressentir, parce que j'ai eu beaucoup... La première fois que je l'ai vu, j'ai mis du temps à m'en remettre, je m'en souviens, c'était assez violent. J'étais un peu submergée, parce qu'il y a plein de choses dans ce film, voilà, sur le regard du père, tout ça, des choses très personnelles. Donc j'étais surtout submergée, mais oui, c'est... ils m'ont aidé à faire mieux que l'écriture.
Et ce film, une fois qu'il est terminé, déjà comment on se rend compte que le film est terminé ? Est-ce qu'on se dit bon là c'est bon, c'est la dernière version ? Est-ce que c'est parce qu'on a un monteur, une monteuse qui est totalement épuisée qu'on dit bon allez ?
Alors la pauvre, et Dieu sait que c'est une génie, mais je crois que là on a fait très fort. On a travaillé vraiment nuit et jour et dans une espèce de frénésie comme ça. Et il y a un moment, le film il était là. Il y a un moment, en plus, on n'est pas du tout, moi, j'aime pas les films trop longs. Donc là, il avait sa bonne longueur. Il était, il était fini, quoi. D'ailleurs, j'ai même pas, après le Festival de Cannes, j'ai dû retoucher deux musiques parce qu'on avait problème de droit, mais j'ai rien touché au montage. D'habitude, Cannes, on en profite, les producteurs en profitent pour vous faire couper. Mais moi, j'ai pas eu de... Voilà. Et je l'ai laissé tel quel, avec des musiques et le son un petit peu. J'ai retravaillé le son. Voilà.
Et justement, une fois qu'on a ce film terminé et que ça y est, on va le présenter au monde, on le présente à Cannes.
Oh là là.
Quelle expérience déjà,
ça, c'est d'une violence inouïe. Surtout que moi, il a eu le label AFKE. Ouais. Donc, je l'ai présenté à tous les exploitants du cinéma de France. Donc, j'avais eu ça pour la danseuse. Même parcours, mais même parcours. Alors, je sors de la salle de montage. Hein. Ouais. Je sors vraiment la salle de montage. C'est-à-dire que, pour être honnête, une fois de plus, je l'ai vu en très grand à Cannes. Sinon, je le voyais dans mon, voilà, dans l'écran. Mais du coup, c'est une grande émotion. Parce qu'en fait, j'ai vu les gens pleurer, j'avoue. J'ai pas eu ça pour la danseuse. Et ça, quand j'ai vu des gens pleurer, je me suis dit, ah, voilà, bah, peut-être que ça a servi à quelque chose.
Après Cannes, il y a une tournée.
Il y a une tournée. Alors, incroyable. Je crois que j'ai dû faire tous les, tous les festivals possibles et inimaginables. Parce qu'en fait, moi, c'est la première fois. J'ai compris que mon film allait sortir en 2024. Mm-hmm. Je vous avoue, après Cannes, on ne savait pas quand le sortir. Et quand j'ai appris ça, je me suis dit, bah, va falloir l'accompagner jusqu'au bout. C'est ton deuxième film. C'est comme un, voilà, c'est comme un bébé. Voilà, je ne vais pas le laisser tomber et dire, voilà. Donc, on est allé à Saint-Sébastien, c'était extraordinaire. On a fait à Angoulême, c'était formidable aussi. Donc, et je me suis rendu compte à quel point il faut le dire et le signaler. J'ai pu assister avec joie au succès d'Anatomie d'une chute, que je trouve fantastique. C'est un progrès formidable. Une femme, ce film irréprochable qui fait tour du monde, qui fait plus d'un million de spectateurs, c'est extraordinaire. Thomas Caillet, Le règne animal. Moi, j'étais dans la même sélection à Un certain regard. Donc, déjà, c'est super, quoi. On a une année de cinéma formidable. Donc, moi, j'ai pu voir tout ça et en même temps soigner Rosalie, sa sortie, faire attention, ne pas le sortir n'importe comment. Et Gaumont m'a aidé à ça et ils m'ont accompagné. Donc, ça, c'était formidable. Et dire qu'il y a des gens qui travaillent dans certains festivals pour faire connaître des films et des gens qui travaillent dur. Et donc, je tiens à les remercier tous parce qu'il y a une vraie passion en France de tous ces gens. Il y a de plus en plus de festivals, mais chacun est soigné et ils ont tous une vertu, en tout cas, de faire connaître des films qui n'ont pas forcément leur chance en sortie de salle comme ça un mercredi. Donc, c'est formidable.
Et qui ont tous à cœur de les accompagner.
Exactement,
le mieux possible.
Exactement.
Et il y a les festivals, mais il y a aussi des avant-premières publiques.
Ouais.
C'est quelle rencontre avec le public, justement,
formidable.
De leur présenter ce film et de leur offrir.
Très touchant. Donc, beaucoup de toute la population. J'ai vu que j'avais des jeunes, des gens plus âgés, des jeunes très touchés, des jeunes femmes, des jeunes hommes aussi, qui se sentent concernés par Rosalie. Je crois qu'il y a une résonance avec l'époque où, très touchant, des jeunes femmes qui viennent me voir et qui me disent qu'elles ont ce trouble génétique. Donc, je me rends compte que c'est pas si rare que ça, qu'aujourd'hui, avec la médecine, on peut faire des choses. D'ailleurs, il y a des jeunes femmes aujourd'hui qui s'assument sur Instagram. On les voit avec leur belle barbe. Et c'est formidable. Et puis d'autres qui font avec la médecine et tout. Mais voilà. Donc, forcément, la différence, ça touche tout le monde. Donc, on sent que je touche les gens qui sont heurtés parce qu'ils n'ont pas l'impression d'être représentés au cinéma, en fait. C'est pas si évident que ça, justement, ce sujet. Voilà.
Il y a des choses qui vous ont surprise ou pas pendant cette tournée d'avant-première? Parce que quand on travaille sur un film pendant aussi longtemps et qu'on a son idée du projet, est-ce qu'il y a des réactions qui vous interpellent, des questions en bien, en mal, j'en sais rien.
Les gens sont déjà très touchés déjà. Ouais. Donc il faut un certain petit temps avant qu'ils remontent avec moi.
qu'ils remontent,
c'est qu'à le dire quand on connaît la fin du film. Mais du coup, voilà. Donc on sent une salle chargée d'émotions, ça c'est sûr. Et des gens très pointus. C'est incroyable la culture française avec des gens qui connaissaient le théâtre. Il y a un moment, je filme le théâtre dans les Vosges, qui est le théâtre du peuple. Donc voilà, donc un échange vraiment agréable. Voilà. Avec des gens qui sont touchés.
Et est-ce que vous avez déjà un prochain projet en tête? Ou est-ce qu'on se dit, bon, on va sortir Rosalie?
Ah non, j'en peux plus. Ça fait un an, bien sûr, que je travaille. Moi, j'arrête pas de travailler, sinon, c'est pas possible. Non, j'en ai plusieurs, d'ailleurs. Il va falloir que je choisisse. Et, en fait, c'est une alchimie où tout d'un coup, tout se concorde. Tant que j'ai pas le bon acteur, la bonne actrice pour raconter mon histoire, faut pas le faire. Je suis assez radicale dans ma façon de faire, assez extrême. Donc, les films naissent que quand il y a une nécessité absolue. Donc, il y a plein de choses qui m'intéressent. Je me réconcilie avec l'époque d'aujourd'hui. Donc, je crois que c'est contemporain. Donc, voilà.
Donc, le prochain film sera contemporain, peut-être?
Oui, il y a forte chance.
Très bien. Rosalie, c'est actuellement au cinéma. Merci beaucoup, Stéphanie Giusto.
Merci à vous.
D'avoir été avec nous pour parler de ce film. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci.
Sans transition aucune, on se parle maintenant de Borgo, c'est notre label L'Autre Regard. C'est un film réalisé par Stéphane Demoustier avec Afzia Herzi et Moussa Manzali.
Vous savez ce qu'on dit sur l'unité 2 ?
Et aux Salines, ça va ?
Comment tu sais que j'habite aux Salines ?
On dit que c'est les détenus qui surveillent les gardiens et non l'inverse.
Tu sais que j'ai des yeux. Je vois bien qu'il y a un problème.
Borgo, cette semaine, c'est Robin qui est allé le voir
tout
pour nous.
Fait.
Que peux-tu nous dire sur cette nouvelle proposition de cinéma ?
Alors donc Borgo, comme on a pu un peu le constater, c'est un film carcéral de prison qui va suivre une nouvelle surveillante, donc incarnée comme tu le disais par Afzia Herzi, en Corse, dans la prison et dans la ville de Borgo, où elle constate que dans une section de la prison bien particulière, les détenus se gèrent en semi-autonomie, on va dire, donc avec la journée, les cellules ouvertes et les détenus qui peuvent communiquer entre eux, aller dans les cellules des uns des autres, manger ensemble, etc. C'est donc une sorte d'écosystème vraiment particulier qui fonctionne sur le lieu et au moment où le film débute et qui va aller derrière, parce que donc comme je le disais, ça se passe en Corse, venir créer des tensions avec cette jeune surveillante de prison qui déménage depuis Paris par rapport aux coutumes à la fois du lieu, les pressions aussi qu'elle pourrait avoir de certains détenus ou même dans sa vie plus privée.
Donc c'est vraiment un changement total de
exactement, totalement
de décor
pour travailler et d'appréhender son métier, et avec donc aussi tous les enjeux qu'elle va avoir avec cette nouvelle vie familiale qu'elle développe dans la ville. Donc j'ai vraiment trouvé le film déjà très intéressant dans la façon qu'il a de présenter une chose qu'on ne connaît peut-être pas, cette façon de se gérer des détenus qui peuvent effectivement avoir une certaine autonomie, surtout la journée, le soir après les cellules sont à nouveau fermées. Ça déjà, on a dès le début du film un attrait dans ce que Stéphane Demoustier vient présenter et comment il suit son personnage principal qui, un peu à l'image du spectateur, découvre les codes du lieu et les différents personnages présents. Ça, c'est la première chose. Et ce qui est intéressant, et là, je ne vais pas trop en dévoiler parce que justement, je pense que le fait de découvrir est plus intéressant. D'autres intrigues, d'autres éléments, en tout cas d'autres éléments de l'intrigue vont se construire autour de ce postulat et amener le film dans des directions qu'on n'anticipe peut-être pas au début et qui donnent également à Borgo un sens à la fois du rythme, de la tension et du développement des personnages et des situations. Donc tout ça, c'est un peu un programme un petit peu riche par rapport au film. Et on le disait tout à l'heure, c'est vraiment incroyablement bien joué. Alors, je trouve de tout le casting, mais
merci.
Et je trouve le point fort du film dans ce qu'elle propose à la fois en sobriété et en posture, malgré justement les événements qui peuvent arriver dans sa vie professionnelle ou personnelle. Elle a un charisme tout au long du film qu'on lui connaissait déjà dans d'autres films avant, mais là je trouve qu'il y a une autre portée encore. Et rien que pour sa prestation et la façon dont elle s'approprie ce rôle très compliqué, c'est intéressant de le voir.
Borgo, c'est donc notre label L'Autre Regard. Merci Robin, ça découvre cette semaine aussi. avec grand plaisir, hein, t'es fou quoi. T'es fou, ça me fait plaisir. C'est donc à découvrir cette semaine au cinéma, tout comme le nouveau film dont on parle tout de suite pendant quelques instants, c'est Monkey Man de et avec Dave Patel. Un film à découvrir en Dolby Cinéma chez Pathé.
Quand j'étais enfant, ma mère me racontait souvent une histoire. Celle du démon roi et son armée. Ils apportèrent le feu et la terreur à notre terre. Mais ils furent confrontés au protecteur du peuple. Le singe blanc.
Monkey Man, c'est une histoire de vengeance, c'est une histoire, c'est un film d'action.
C'est un film d'action,
porté
surtout.
Donc par Dave Patel, qui le réalise aussi. C'est un film à l'histoire assez particulière. Je parle de sa production, parce que c'est un film qui, à la base, avait été acheté par Netflix. Qui a été un film qui a été tourné quand même en 2021, donc c'est déjà un film qui a 3 ans. Alors, ne vous inquiétez pas, ça ne se ressent pas à l'image, mais en tout cas, c'est un film qui revient de loin, puisque Netflix ne voulait plus le sortir pour X ou Y raison. Et une fois qu'il est revenu dans les mains de ses producteurs, c'est Monkey Paw Production, donc la société de prod de Jordan Peele, qui l'ont donné notamment Us, Nope, et Get Out, surtout, en effet, qui va racheter les droits de distribution du film, et qui, ce dernier ayant un accord, enfin des accords de distribution avec Universal, va distribuer le film avec Universal. Et c'est pour cette raison que le film sort enfin au cinéma, parce que c'est vrai que c'est un projet qui date, je crois, 2019, et qui est, sur la, qui est bloqué dans les, sur des disques durs depuis 2021, qui sort enfin au cinéma. Je disais tout à l'heure, un film de vengeance, un film d'action.
C'est clairement un John Wick version Dev Patel.
Version
quoi.
Dev Patel,
c'est
ouais,
ça.
Clairement.
C'est-à-dire que je pense que lui, en tant que cinéphile, en tant qu'acteur, puis maintenant réalisateur, se fait plaisir sur tout ce qui est référence du genre. En plus de ça, je trouve ça assez inédit quand même qu'il place son action en Inde. Hein. Je trouve que ça en dit pas mal sur le pays. En plus, avec toute cette différence de classe sociale qu'on connaît, qui est encore assez ancrée en fait dans ça, et le fait qu'il choisisse ce thème-là très fort dans son pays, enfin dans le pays, comme contour de son film, je trouve que ça apporte quand même quelque chose, en fait.
Et il y a des enjeux politiques forts hein, dans le film, qui va revenir justement sur le, comment dire, les effets de masse, les effets de foule, des trucs presque un peu sectaires.
Ouais, le communautarisme.
Et le personnage de Dev Patel, voilà, qui, grosso modo, voilà, sa mère s'est fait tuer pendant que lui était très jeune. Il a assisté à ça, et toute sa vie n'a été qu'une préparation à un espèce de grand combat contre les personnes responsables de la mort de sa mère et de l'incendie de son village, hein, grosso modo. Et tout le film, ça va être la préparation pour arriver à son but ultime, qui va être le combat final.
Le
boss final. Mais il y a presque un côté un peu jeu vidéo. Tu parlais de John Wick, je crois qu'il est mentionné d'ailleurs dans le film. Il y a un petit côté...
Que ce soit dans le costume, il y a même un clin d'œil avec un chien.
Accessoirement.
Et puis, je trouve qu'en vrai, même dans le côté action pure, les scènes de combat sont quand même assez bien chorégraphiées.
Ouais, c'est clair.
Je pense qu'il a quand même donné de lui-même en tant qu'artiste, mais en tant
physiquement. Je pense qu'il y a eu un petit temps de préparation physique.
Mais c'est intéressant de le voir là-dedans. C'est-à-dire que Dev Patel, donc, on le connaît évidemment de Slumdog Millionaire. Mais moi, la dernière fois que je l'avais vu, c'était pour The Green Knight.
De David Lowery, ouais.
C'est ça. Et c'est
incroyable film.
Alors ça, on en reparlera. Mais... mais ce que je veux dire, c'est que c'était quand même un film d'auteur très méta, encore une fois, et qui est quand même aux antipodes de Monkey Man. Et le voir dans ce genre de registre-là, maintenant, John Wick, façon John Wick, c'est assez intéressant. Et je pense qu'en fait, c'est pas si mal, en fait. Ça montre surtout que c'est un... déjà, un acteur qui n'hésite pas à aller vers d'autres horizons, c'est très bien. Et en même temps, un réalisateur qui ose, comme premier film, en fait, s'attaquer à un genre très populaire et qui a quand même aussi des grosses figures de cinéma qui aujourd'hui s'en emparent, quoi. Donc, tu vois, je pense à David Leitch avec The Fall Guy et Bullet Train, ce genre de choses. On sait que les chorégraphies, en fait, d'action sont assez bien balisées aujourd'hui. Et le fait que Dev Patel s'en empare, c'est assez original.
Monkey Man, c'est donc un film à découvrir en Dolby Cinéma cette semaine chez Pathé. Dans le rang des autres nouveautés à l'affiche, il y a aussi la comédie, une nouvelle comédie portée par Ahmed Silla et Hakim Jemili, Ici et là-bas. Revenons sur les bonnes raisons d'aller voir les films de la semaine, à commencer par Civil War. Pourquoi faut-il aller voir Civil War au cinéma, Lisa?
J'allais dire pour son aspect prophétique, mais on n'espère pas. Mais
t'es très positive.
Non, je dirais pour le retour gagnant d'Alex Garland sur grand écran après deux films, quoi qu'on en pense, peut-être moindres, mais voilà, le retour à ses obsessions et à ce qui nous avait fasciné avec Ex Machina.
Et je dirais pour l'aspect road trip dans le film, qui va apporter mille choses, mille rencontres, beaucoup de personnages de tout horizon, et qui va rendre l'expérience vraiment viscérale. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui m'a le plus marqué, la notion de viscéralité dans ce truc. Il y a vraiment un truc qui te prend au trip et qui ne te lâche pas du début à la fin.
Mais on l'a pas mentionné, mais il y a Jesse Plemons dedans.
Il y a Jesse Plemons aussi.
Je pense que sa peur viscérale vient aussi de sa scène à lui.
Voilà, il représente un joli pourcentage de cette peur-là. Pourquoi faut-il aller découvrir Borgo au cinéma, Robin?
Pour Avia Herzi, comme on disait tout à l'heure, qui est vraiment incroyable dans ce rôle et qui accapare un peu toute l'attention grâce à ce qu'elle propose, grâce à son jeu et grâce à son intensité dans les événements qui se passent.
Et enfin, Monkey Man, pourquoi faut-il aller le découvrir cette semaine sur grand écran?
Je dirais pour ce que ça montre de la société indienne, en fait, entre tradition, communautarisme et en même temps de le plonger dans un film hyper moderne, en fait.
Moi, je dirais pour Dev Patel, qui arrive à faire quelque chose d'assez fort ici, d'une part en réalisant et de l'autre en jouant, de réaliser quand même un film solide avec des scènes d'action assez fortes et un parti pris. Je suis pas forcément tout le temps fan de la réalisation. Mm-hmm. Je trouve que sa caméra est toujours trop proche des visages.
Il y a
un truc moi qui m'a pas emporté à ce niveau-là. Mais par contre, il y a quand même quelque chose dans l'esthétique du film que je trouve vraiment réussi, que ce soit dans les scènes de combat où justement il a son nom. Monkey Man vient de là parce qu'il est sur un ring et il se bat sur un ring face à différentes personnes en étant habillé en singe et tout au long du film au moment des scènes d'action, et ça je trouve ça assez réussi. Dans l'actualité des semaines à venir dans les cinémas pâtés, on peut vous parler de Star Wars La Menace Fantôme qui ressortira dans le cadre des séances cyniques le 4 mai dans tous les cinémas pâtés à l'occasion du 25e anniversaire de la sortie de cet épisode au cinéma. Et puisqu'on parle de Star Wars, le même jour, du 4 au 5 mai, aura lieu un marathon Star Wars avec les 9 films de la saga Skywalker proposés d'affilée dans 3 cinémas pâtés, à Plan de Campagne, à Rennes et à Bellecour, à Lyon, le tout pour 66€. 66€, une petite référence à Star Wars, vous l'avez.
Bien sûr, là,
bien sûr.
Et voilà, et je suis entouré de gros geeks.
t'as dit Plan de Campagne, du coup, je me suis dit.
Ouais, il s'est préparé.
Mais il faut arrêter à un moment donné, monsieur. Faut laisser les gens travailler.
Non, pâté Plan de Campagne.
Pâté Plan de Campagne, tout à fait, qui se situe dans le sud de la France. Hein,
exactement,
c'est ça,
je ne vais pas.
À proximité de Marseille, en effet. On les salue.
On les salue.
Bref, merci beaucoup à vous trois, à vous deux, oh là là, comme le membre fantôme. Gaël n'est pas là, mais pourtant il est toujours dans mon esprit. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été là. Merci, roi, j'allais dire Gaël. Oh là là, mais loin du cœur, loin de. J'ai pas l'expression. En tout cas, merci Robin d'avoir
été
là. Merci Lisa.
Merci beaucoup.
Et avec grand plaisir. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma.